This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason, l'histoire ou quand le jazz rattrape ses racines. Cette fois-ci, cette semaine, vous le savez, ce ne sera pas le jazz mais l'histoire qui va retrouver ses racines puisque cette semaine, 5 émissions spéciales autour de la naissance et on peut dire de la renaissance aujourd'hui, de Charlie Hebdo. Florent Robin m'assiste dans cette lourde tâche, puisqu'il a autant de connaissances que moi, si ce n'est plus par rapport à cet historique-là. Donc Florent, bonjour.
Bonjour Gérard, et oui, hommage à Charlie Hebdo depuis le début de la semaine sur Divergence FM.
Et alors, je crois qu'on peut dire émission exceptionnelle pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que peut-être sommes-nous parmi les seuls à pouvoir aujourd'hui prétendre que nous avons le numéro qui est sorti aujourd'hui.
Absolument, il y en a plus dans les kiosques, hein, donc on a eu la chance d'en avoir un, donc on se le partage, Gérard et moi, pour préparer cette émission.
C'est pas de la chance, c'est le fait de se lever tôt.
Je n'ai pas d'opinion.
D'accord, donc tout simplement, ben, comme on l'a dit, c'est surtout destiné aux jeunes générations qui, effectivement, peut-être ont-elles fait comme moi, se sont levées tôt et ont eu la chance d'avoir ce numéro. Mais il nous paraissait important quand même de retracer l'histoire de Charlie Hebdo, de sa jeunesse en passant par Harakiri jusqu'à ce qui sera donc malheureusement l'attentat qui a lieu la semaine dernière. Mais tout ça, c'est pour les deux émissions à venir. Pour l'instant, on va rester dans l'histoire et l'historique à partir de l'année 1970.
Oui, c'est vrai qu'on avait dit que l'hebdo Harakiri était né en 69, avant c'était un mensuel. Et en novembre 70, eh bien, il y a un numéro qui sort et qui va provoquer l'interdiction. C'est le numéro Bal tragique à Colombey. On va peut-être revenir pourquoi ce titre. Il n'y a pas de dessin dans cette couverture. Pourquoi le Bal tragique à Colombey et pourquoi ça a fait scandale?
Alors, Bal tragique à Colombey, ça rejoint deux événements en fait. Le tout premier, c'est... Malheureusement, on va dire, ce qui s'est passé dans l'Isère avec donc ce dancing, on va dire, cette boîte de nuit, le 5-7, qui va brûler et dans laquelle périront 140 jeunes. Par conséquent, c'était à Saint-Laurent-du-Var, voilà que je dis des bêtises pour commencer.
Saint-Laurent-du-Pont.
Saint-Laurent-du-Pont. Donc je vais y arriver, vous allez voir, je suis un peu fatigué, c'est vrai. Et par conséquent, donc 140 morts des jeunes qui étaient venus se distraire et danser et... Incident tragique parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, on va le dire pour les jeunes générations qui vont dans les boîtes, c'est qu'à cette époque-là, eh bien, on ne se posait pas beaucoup de questions quant à la sécurité puisque les décors étaient carrément, on va dire pratiquement que du polystyrène habillé sur des grillages et la sortie était condamnée par un tourniquet. Et donc ce tourniquet, effectivement, va se bloquer au moment de la panique générale, ce qui fait qu'on peut sortir quelques jeunes, mais 140 resteront brûlé vif dans le gymnase et dans la boîte de nuit. Décidément aujourd'hui, c'est vraiment pas bon jour, on va dire. Mais le deuxième élément, événement, c'est aussi la mort du général de Gaulle.
Oui, pour revenir donc à cet incendie, il faut savoir qu'il y avait un journal, je crois que c'était François qui avait fait sa une avec Bal tragique à Saint-Laurent-du-Pont, 146 morts. Et 10 jours après, la mort du général de Gaulle et Harakiri, l'hebdo Harakiri qui publie en première Bal tragique à Colombey, un mort.
Oui, et d'ailleurs, Cavana va donc nous expliquer que pour lui, il ne voit pas où est le sujet scandaleux du titre.
Il n'y a pas de diffamation, non. Pas d'insulte, pas d'injure à chef de l'État.
Par conséquent, effectivement, très peu de commentaires parce qu'il est totalement sous le choc, Cavana. Il ne comprend pas pourquoi, effectivement, avec la liberté qui était celle de l'époque, on est quand même dans les années 70, on a passé 68, eh bien, le journal se permet donc de faire un titre... humoristique et satirique comme il le faisait. Et là, paf, ça tombe comme un couperet.
Le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Raymond Marcellin qui prend la décision donc, d'interdire purement et simplement le journal. Et donc, on peut penser que c'est la fin de Harakiri Hebdo, de l'hebdo Harakiri. Mais
Harakiri a toujours eu des ressources insoupçonnées et la suite fera valoir que Harakiri va continuer.
Sous un autre nom, comme on disait la semaine hier, il y avait Charlie Mansuel. Charlie qui était le Mansuel de bande dessinée de l'équipe Harakiri, qui était à l'époque dirigé par des feuilles de ton. Donc ils ont repris le titre Charlie, mais maintenant c'est devenu Charlie Hebdo. C'était référence donc à ce journal et aussi à un autre Charlie, c'est Charles de Gaulle.
Oui, donc vous voyez que tout se rejoint, que dans le titre, ils avaient trouvé, parce que c'était des gens hyper intelligents, hyper réactifs, parce que toutes les semaines, il fallait trouver les idées par rapport à cela. Eh bien, avec le titre, ils avaient trouvé la synthèse entre l'actualité et la renaissance donc, de Charlie Hebdo.
Et là, ça va être les années d'or de Charlie Hebdo, donc à partir de 1970 jusqu'en 81, et où Cabu va continuer à fustiger le beauf. Qu'est-ce que c'est que le beauf ?
Ça veut dire beau-frère. Je crois qu'il y en a un dans chaque famille, même s'il est cousin ou oncle. C'est le personnage qui embête tout le monde, qui n'a aucun doute. Alors lui, il a que des convictions. Et il représente le bon sens français, mais il ne se rend pas compte qu'il est complètement manipulé. Quoi. Le bon sens va toujours dans le sens de l'idéologie du moment, dominante, comme par hasard. Je suis un beauf aussi, je crois qu'il y a une part de beauf chez tout le monde. Moi aussi, je suis un beauf, c'est-à-dire quand on a des réactions sans réfléchir sur tel ou tel événement, quand on se laisse porter par les idées reçues, on est un beauf, quoi.
Oui.
Dans ce monde, tout est fait pour eux, pour les beaufs. La musique, les automobiles, tout. La politique, enfin, et on est quelques-uns à chercher désespérément des petits trous, comme les rats, pour se cacher, pour avoir quelques plaisirs. Il faut les chercher, vous savez, parce que tout est fait pour un archétype du français, vous croyez pas ?
Alors oui, c'était donc la définition du bof par Cabu lui-même. Et il expliquait, si j'ai bonne mémoire d'ailleurs, que ce bof, c'était tout simplement, je crois, son beau-frère, qui était patron de bistrot.
Oui.
Et à partir de là, eh bien, il avait donc décidé que, parce qu'on lui a aussi souvent reproché, et notamment, vous imaginez, tous les patrons de bistrot qui sentaient apparentés à des bofs, ça passait pas facilement quand même. Hein.
Mais l'expression a fait fortune à tel point qu'elle est même rentrée dans le dictionnaire. Hein. Elle est dans le Petit Larousse, si je ne me trompe.
Sauf que je crois qu'à un certain moment, je crois que c'est peut-être même Renaud qui avait fait cela. Il avait écrit bof, B-O-F, qui voulait dire bœuf, beurre, œuf, fromage. Ce qui n'était pas tout à fait la même signification. Et puis Cabu, c'était aussi Duduche, quand même.
C'était Duduche. Duduche, c'est le personnage de l'adolescent qui est toujours amoureux de la fille du proviseur, mais qui paraissait, lui, dans Pilote.
Qui, je crois, s'appelait Catherine.
Catherine, oui, c'est vrai, tout à fait.
Tu vois,
la fille du proviseur.
J'ai quelques trous de mémoire, mais j'en ai qui me reviennent quand même.
Et puis Cabu, on en parlait hier, c'est l'amour de Charles Trenet. Et tu as retrouvé, je crois, dans tes archives, Cabu qui parle de Charles Trenet.
Exactement.
Il le dit dans une chanson qu'il avait composée après un récital. Ça donnait ça. Et demain, chantez-les mes chansons, qu'elle garde ta foison, la joie dans votre maison. C'est ça, c'est qu'on peut chanter Trenet. Moi, je chante Trenet comme ça, en marchant. Parce que c'est une poésie déjà, c'est une poésie familière et sur des rythmes de jazz, ça doit vous dire quelque chose. Pas tout jazz, mais parce qu'il a fait, on croit qu'il a fait que du swing, mais non, il a fait des valses, il a fait même des tangos. Enfin, un tango, un seul tango qui dit « Ne reviens jamais, horrible tango qui sent le mégot et la pompe funèbre ». Il aimait pas le tango.
Donc beaucoup d'humour et beaucoup effectivement d'amour de Cabu pour Charles Trenet. On parlait des personnages, il y en a un dont je ne retrouve pas le nom, c'est ce fameux adjudant, aide-moi.
L'adjudant Cronenbourg. L'adjudant Cronenbourg.
Qui était bourré dès 8h du matin.
Oui, il est bourré jamais en fait.
Voilà. Donc j'ai fait de la pub à la radio, tant pis, hein, mais il s'appelait comme ça, Cronenbourg, que voulez-vous. Il fallait
c'était
dire.
Son nom, c'est un nom de famille, hein, je suis désolé, c'est pas une pub. Hein, c'est l'adjudant Cronenbourg.
D'accord, on va en rester là. Et par conséquent, vous voyez que tous ces joyeux de riz savaient manier l'humour même à leur détriment, puisque Cabu dit lui-même que lui-même était un bof dans le précédent interview qu'on a entendu. Il n'hésitait pas lui à faire part qu'il lui arrivait d'être un bof et que...
Il y a des bofs en chacun d'entre nous. Comme
voilà, exactement, c'est ce qu'il disait. Et puis, on va quand même passer un autre extrait musical de Cabu chantant traîné.
En duo
avec Mano Solo, et on va dire, oh, allez, on va le dire, il y a quand même un lien direct avec Mano Solo.
Ben c'est papa et fifis. Hein.
Et oui, peu de gens le savent, mais Mano Solo est le fils de Cabu. Voilà, on a fait des révélations très people aujourd'hui, on va dire. Même pas people, parce que c'est un hommage qu'on voulait rendre à ces deux personnages. Mano Solo, Cabu, la Java du diable.
Arrête de me pousser, papa, je te jure. Un jour, le diable fit une java, qu'avait tout l'air d'une mazurka. Passa trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt, la terre entière par cet air fut enchantée. Les dancings au cimetière, tout le monde la chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent, aux heures des repas, le diable venait sur sa java, frapper du pied dans les estomacs.
Les petits malheurs avaient commencé, car ce refrain de le siffler venait partout, tout de suite appris, circonvenant bien des esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député prit le coup, à la tribune de la chambre, dit dans son discours.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? Un coup de fusil, on dut l'abattre, il expira au deuxième couplet.
La salle Pleyel n'écoutait plus, des grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre n'est là, Sébastien Bach et la Java. Ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à quelle pagaille dans le théâtre. Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène.
Au-delà des mains, ce fut bien pire. Le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait pour son empire jusqu'au pôle nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande java sauvage fit des victimes par milliers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, les New York et Chicago, l'or se vendit au prix du plâtre et le cigare au prix du mégot.
Puis un jour tout vint tranquille, on n'entendit plus java dans les champs et dans les villes. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il touchait plus de droits d'auteur. Tout ça c'était de l'argent de foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur.
Allez, remportons notre musique et tournons en enfer.
Cabu, Mano Solo, la Java du diable. Et bien sûr, pour les amateurs de jazz ou non amateurs de jazz, Cabu, peut-on le dire, a signé, je crois, une cinquantaine au moins de pochettes.
De couverture d'albums.
De couverture d'albums de jazz, parce que c'était vraiment un grand amoureux du jazz. Et vous avez peut-être vu déjà justement ces albums qui, à la fois, étaient parfois des compilations, parce qu'on appelait ça le Cabu Masters. Et il y avait des époques qui allaient de mémoire, hein. Des années 20 aux années 40, de 40 à 45, parce qu'il était passionné par l'époque swing, effectivement, des big bands de Count Basie, de Duke Ellington, mais aussi Frank Sinatra, Miles Davis, tout est passé dans là-dedans. Et puis, il avait aussi des chanteuses favorites. Alors évidemment, Billie Holiday, c'est apparu impensable qu'un amateur de jazz ne prenne pas Billie Holiday. Quant à moi, j'ai souhaité justement peut-être vous faire découvrir une autre chanteuse qui est un peu moins connue. Et cette chanteuse, c'est Anita O'Day. Alors Anita O'Day, elle avait la particularité d'apparaître toujours sur scène habillée, on peut dire, comme une grande dame. Elle avait toujours cette immense belle robe longue. Elle portait la voilette avec un très beau chapeau. Et lorsqu'elle se produisait au festival de Newport, notamment... Donc elle arrivait ainsi, et personne ne comprenait comment cette dame, qui paraissait comme une très très grande dame, pouvait chanter du jazz. Faut-il rappeler qu'elle fut la chanteuse de l'orchestre de Gene Krupa, et notamment de ce Boogie Blues.
Thank you. the trees. Well, don't the moon look lonesome shining through the trees? And don't your arms look lonesome when your baby packs up to leave? Gone up on the mountain, call that baby mine. I'm going up on the mountain to call that baby mine. But something tells for me he's not coming back this time. We'd like to go to the country, can't take you. We all are going up to the country, baby, can't take you. And nothing up there a man like you can do. He's got a face like a fish, shaped like a frog. When he loves me, I'll holler, ooh, hot dog. Love that man better than I do myself. He left me all alone, all alone on the shelf.
Anita O'Day, Gene Krupa, Boogie Blues. Et donc voilà, nous revoici donc en 70 avec cette naissance donc, de Charlie Hebdo. Et à l'époque, c'est le professeur Choron qui devient directeur de la publication.
Oh ben Choron, il est partout. Et puis c'est lui aussi qui était en train de négocier avec les banquiers, qui faisait ses facéties aussi dans le journal. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu Charlie Hebdo, mais Harakiri... Il y a eu un autre journal qui s'est appelé Harakiri, c'est Harakiri mensuel, qui a valu des tas de procès, des tas d'interdictions, de saisies. C'était donc le mensuel Harakiri. Et je me souviens, entre autres, d'un numéro qui avait été saisi. C'était le numéro d'Harakiri qui mettait en scène Madame Anémone Giscard d'Estaing, où c'était, on était en plein choc pétrolier, et puis la couverture de mémoire disait ben, la France ne manquera pas de pétrole, et on voyait un énorme émir, et avec Anémone Giscard d'Estaing à poil sur ses genoux, puis l'émir qui disait « Bof, elle n'est pas épaisse, un demi-baril ». Voilà, ça a été saisi. Après, il y a eu les procès avec Dalida, les procès avec Brigitte Bardot, que ça soit pour Harakiri mensuel ou Charlie Hebdo, qui a multiplié les procès et les petits problèmes avec la justice.
Nous avons décidé de faire une émission spéciale procès et attentats vendredi.
Voilà, voilà.
Parce qu'il y aura tellement de choses à dire qu'on va pouvoir faire un condensé. On n'aura qu'une demi-heure, mais ce sera des
extraits. Ça ne suffira pas.
Ça ne suffira pas, mais là, on fera vraiment the big procès.
Et puis, pas oublier non plus qu'il y avait les éditions du Square. On oublie tout le temps les éditions du Square. C'était les éditions qui publiaient les dessins qui avaient été faits dans Charlie ou dans Harakiri, qui les publiaient en album. Hein, édition qui n'existe plus, d'ailleurs.
Et oui, donc tout ça, c'était la naissance de Charlie avec ce qui allait se propager, comme tu l'as dit, jusqu'en 81, où c'est vraiment toute la période de la grande année de Charlie.
Bah oui, 81, c'était aussi... Alors là, ils étaient avec des difficultés financières sans nombre, parce que ça coûtait cher les interdictions, ça coûtait cher les procès, etc. Et puis, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus de sous, d'autant plus qu'ils avaient eu l'idée complètement folle de faire un quotidien, Charlie Matin. Alors, tout le monde, le premier jour, on achète tous Charlie Matin, etc., en disant, bah, va y avoir un quotidien Charlie, super, etc. Et le deuxième numéro, parce qu'il n'y avait que deux numéros, on achète Charlie Matin et on voit toute l'équipe en première page sur la couverture, toute l'équipe hilar, avec des filles à poil sur les genoux, tout le monde avec du champagne. Et en couverture, c'est marqué, finalement, c'est trop de boulot, on arrête.
Oui, donc que deux numéros, mais deux numéros collectors, hein, c'est le cas de le dire, parce que ceux-là, si vous les avez, croyez-moi...
Je les ai.
Oh, bah tout de suite, voilà, c'est trop facile. Hein.
Mais j'ai même réussi à avoir le numéro qui a été saisi avec Anémone Giscard d'Estaing.
Donc, on a donc deux collecteurs, plus Madame Giscard d'Estaing, plus le numéro d'aujourd'hui.
Sans parler que j'ai le numéro qui a été interdit par Dalida.
Oh là là, il nous manque celui de Brigitte Bardot, mais on va peur.
Je l'ai aussi.
Il l'a aussi, bon, mais t'as tout, quoi. Bah, dis-moi, mais comment ça se fait que t'es tout ça? Parce que tu avais des liens particuliers avec Charlie Hebdo, quoi.
Ah, mais j'ai toujours, c'est, moi je le dis tout le temps, Charlie Hebdo, c'est grand-papa, et moi, dès que je savais que le matin, quand paraissait Harakiri mensuel, j'étais devant les kiosques pour l'acheter avant tout le monde, parce qu'on ne savait pas s'il allait être interdit ou pas.
Alors également, il faut quand même préciser que malheureusement, cette naissance de Charlie Hebdo va s'interrompre au bout de 580 numéros.
Oui, puisque en fait, y a pas assez d'abonnements, il y a les procès qui ont coûté cher, les interdictions, etc. Puis bon, au bout d'un moment, Choron a beau essayer de rouler les banquiers dans la farine, au bout d'un moment, ça marche pas, il décide, on met la clé sous la porte, on arrête au numéro 580, tu l'as dit tout à fait justement, et c'était le 23 décembre 1980, fin de Charlie Hebdo, mais fin provisoire.
Fin provisoire, ce qui n'empêche Cabu, lui, de définir ce que l'on peut faire avec le dessin.
J'ai tas de choses avec le dessin, on peut faire des dessins contre, j'en fais beaucoup. C'est plus dur de faire des dessins pour, j'en fais aussi pour le jazz par exemple. Avec le dessin, on peut faire des dessins pour enfants, on en a parlé. On peut faire de la BD, on peut faire du reportage, du dessin du croquis d'audience. J'ai essayé de te faire tout pour m'amuser finalement. C'est pas un métier, tu sais bien, c'est un plaisir de dessiner. Kavanagh, qui est un ancien dessinateur et qui ne dessine plus et qui écrit maintenant, il dit toujours que c'est beaucoup plus dur d'aligner les mots que d'aligner les traits. C'est vrai. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de dessin dans les journaux gratuits. Je ne sais pas si vous avez des journaux gratuits à Brest, mais...
Et oui, donc on peut tout faire avec le dessin, et preuve encore qu'aujourd'hui on peut tout faire avec le dessin, puisque eh bien, le journal renaît cette fois-ci, puisqu'il
renaît,
on va dire, parce qu'il y a eu tellement d'épisodes successifs où il a été interrompu, interdit en cessation de parution, donc il est paru aujourd'hui, le tout dernier numéro, et effectivement le numéro donc, de ce 14 janvier 2015 est quand même un événement majeur.
C'est un événement majeur et en même temps, je tiens à signaler la dignité de toute l'équipe survivante de Charlie Hebdo qui a réussi à faire ce numéro dans des conditions épouvantables au niveau psychologique. Et moi, ce que je note, parce que je l'ai lu un peu brièvement juste avant le début de l'émission, c'est l'édito de Gérard Biard, qui est le rédacteur en chef. Est-ce qu'il y aura encore des 8 mai ? Et où il rappelle vraiment que Charlie Hebdo... Très seul, souvent, a été un défenseur de la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? C'est la loi du 9 décembre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Et cette laïcité qui a été très, très souvent oubliée, voire brocardée par les politiques, qui dérange encore tout le monde, c'est quand même une loi, je ne dirais pas qu'elle est unique au monde, puisque je ne connais que deux pays qui a une loi de séparation des églises et de l'État. C'est la France qui l'a créée, donc en 1905, et il y a aussi le Portugal.
Alors on va, si tu le veux bien, justement lire cette partie qui traite de la laïcité. Et donc c'est signé donc par Gérard Biard. Il dit « Les millions de personnes anonymes, toutes les institutions, tous les chefs d'État et de gouvernement, toutes les personnalités politiques, intellectuelles et médiatiques, tous les dignitaires religieux qui, cette semaine, ont proclamé « Je suis Charlie », doivent savoir ce que ça veut dire aussi « Je suis la laïcité ». Nous sommes convaincus que pour la majorité de nos soutiens, cela va de soi. Nous laissons les autres se démerder avec ça.
Et oui, Charlie Hebdo, défenseur de la laïcité, défenseur des valeurs laïques. Je rappelle que la laïcité, c'est quand même... L'objectif, c'est de rassembler les citoyens et pas de les diviser. Voilà, c'est ça le fondement de la laïcité. Et aussi, bon, bah, tous les dessins qu'a pu faire Charlie Hebdo à Harakiri, c'était des dessins qui fustigeaient les religions, mais parce que les religions, il y en a marre quand ils veulent se mêler de nos affaires.
Et c'est ainsi que par rapport à ce que tu viens d'expliquer, eh bien, Monsieur Biard, je vais l'appeler Monsieur, lui, il va déclarer ceci, écrit dans le dernier numéro paru ce jour de Charlie Hebdo, « Une dernière chose importante, nous voudrons essayer un message au pape François, qui lui aussi est Charlie, cette semaine. Nous n'acceptons que les cloches de Notre-Dame sonnent en notre honneur que lorsque ce seront les fémènes qui les feront tinter. » Les fémènes, vous savez, ce sont ces jeunes dames qui se dévoilent aisément pour porter haut et fort des messages politiques.
Absolument.
Voilà, tout est dit dans ce dernier numéro qui vient de sortir aujourd'hui. Et puis, eh bien, toutes les choses ayant une fin, on va donc nous aussi devoir terminer l'émission. On va le faire avec quelque chose qui aurait plu, je pense, à Cabu et à toute l'équipe, parce que c'est un enterrement. C'est l'enterrement de The New Orleans Function par Louis Armstrong.
And now, folks, we're gonna take you down to New Orleans, Louisiana. Tell you the story about Didney Ramble. Cause you know there was a funeral march in front of Didney Ramble where they take the body to the cemetery and they load Brother Gate in the ground. And dig it.
Of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte Jerry Ware en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.